Monsieur Rémi Bachère, bonjour. Vous avez écrit un livre récemment qui s'appelle Une bonne terre pour un beau jardin. C'est un titre assez intéressant parce que vous pensez que la terre est le support principal qui nourrit les plantes et les aide à vivre comme il faut.
Il y a presque tout dans le titre. Enfin, il faut lire le livre, mais.
Oui.
c'est vrai que la plante, elle vit d'abord, elle a ses racines dans le sol. Et on s'aperçoit, il y a quand même pas mal de recherches qui ont été faites, qui ont montré l'importance d'avoir un sol. Nous, on insiste beaucoup sur la notion de sol vivant. Alors, tout le monde connaît, les jardiniers connaissent bien le ver de terre.
Oui, qui est un bon laboureur.
C'est un signe visible qu'un sol est en bonne santé. Mais il y a énormément de petites bêtes qui vivent dans le sol et qui participent, en fait, indirectement à l'alimentation de plantes. Et c'est cette vie du sol qui permet d'avoir en grande partie des plantes en bonne santé.
D'accord. Si je comprends bien, donc cette vie de sol, il faut la respecter, il faut la connaître, et donc l'utilisation de produits chimiques vient interférer sur cette vie du sol, voire totalement la détruire.
Oui, alors ça c'est un des gros problèmes qui est rencontré aujourd'hui. C'est l'atteinte. Enfin, souvent, en fait, on s'aperçoit que les pratiques d'agriculture conventionnelle qui utilisent beaucoup de produits chimiques, par exemple pour désherber, ou même on parle aujourd'hui il y en a qui parlent de désinfecter les sols, quoi, carrément. Hein. C'est une vision. Alors c'est pas tous les agriculteurs, et on s'en fout, heureusement, et pas tous les jardiniers, mais moi j'ai un voisin, voilà, il dit je vais désinfecter mon sol parce que comme ça il sera mieux pour les plantes, quoi. Désinfecter, ça veut dire qu'on
stériliser
dans cette vision-là que ce qu'il y a dans le sol est mauvais pour la plante, quoi. Alors c'est vrai qu'il y a des champignons qui sont porteurs de maladies, c'est vrai qu'il y a des insectes qui vivent au niveau du sol comme le topin, bon, et c'est connu, il pose des problèmes sur les pommes de terre, par exemple. Alors c'est vrai qu'il y a cette réalité-là, mais l'autre réalité qui est beaucoup plus importante, c'est de savoir si tous les insectes et toutes les petites bêtes qui jouent un rôle utile et qui participent eux-mêmes au contrôle de ces champignons et bactéries ou petites bêtes qui eux sont nuisibles.
Oui,
et ceux-là sont beaucoup plus importants et c'est ceux-là qu'il faut encourager à vivre.
D'accord. Et puis la rotation des cultures permet d'éviter aussi que ces topins prolifèrent parce qu'on met toujours les patates au même endroit, quoi. Y a aussi d'un côté connaître son sol comme votre livre se plaît à le répéter, parce que c'est vrai qu'on ne va pas faire les mêmes apports dans une terre sablonneuse que dans une terre argileuse,
ouais.
Même si l'humus dans les deux cas s'avère être la panacée importante. Justement, par rapport à un jardinier que l'on va considérer comme respectueux de l'environnement, c'est-à-dire qu'il va éviter de tomber dans l'abus de produits toxiques, parce que je pense qu'il faut bien les appeler comme ça maintenant, on s'en rend compte de plus en plus, qui décide donc de cultiver son jardin au naturel, en bio, qu'est-ce que vous lui conseillerez au départ pour améliorer son sol?
Alors en fait, ça dépend beaucoup de... Du jardin dans lequel il est. Souvent, les jardiniers se retrouvent, quand ils démarrent leur jardin, ils trouvent un bout de terrain. Dans bien des cas, heureusement, ce sont des jardins qui, des anciens jardins cultivés, ou parfois des jardins qui sont revenus à la friche. Et puis, dans d'autres cas, c'est le cas complètement à l'opposé, c'est quelqu'un qui a fait construire sa maison.
Ouais.
Donc, qui dit construction d'une maison, dit un vaste chantier autour de la maison, des engins qui sont passés, la terre qui était chamboulée, qui était tassée. Donc suivant, dans ces deux cas de figure, c'est un petit peu différent.
Bien sûr.
Le cas de figure, c'est vrai qu'il est le plus difficile, c'est celui-là, quoi. Quand une terre a été un peu massacrée, tassée. Donc là, il faut beaucoup de patience. On amène régulièrement chaque année du compost. On essaie de cultiver des engrais verts. Ce qu'on appelle les engrais verts, hein, ce sont des plantes.
La facélie.
Par exemple, la facélie, qui est très connue maintenant, qui est de plus en plus connue en tout cas.
Ouais.
C'est une très belle plante qui attire en plus les abeilles.
Mellifère.
Pour ça. Qui, par ses racines, va en fait aller profondément dans les sols. Donc, va participer à l'ameublissement du sol. Bon, la portée du compost, c'est important aussi pour animer la vie du sol. C'est souvent en fait aussi toujours cette vie qui est sous terre qui participe à l'aération de la terre. Pour avoir une terre qui soit propice au développement des plantes, il faut qu'il y ait en fait de l'espace sur
oui.
la terre. Il faut qu'il y ait de l'espace pour, parce qu'il faut qu'il y ait la circulation de l'air, la circulation de l'eau,
d'accord.
et par la même circulation des racines. Mmh. Les vers de terre participent beaucoup à ça. Donc, dans une terre abîmée comme ça, voilà, c'est beaucoup de patience, apport de compost, suite d'engrais verts, mulch, ce qu'on appelle mulch ou paillage, c'est pareil, couvrir la terre, et puis petit à petit, la mettre en culture dedans, commencer à cultiver des...
C'est vrai que la terre, voilà. Je disais, c'est vrai que la terre a horreur d'être nue. Trop souvent...
Oui,
je disais, trop souvent, on a un problème, beaucoup de jardiniers ont un problème, c'est qu'ils ont une notion de propreté, de clean, qui fait qu'ils veulent reproduire ça dans leur jardin, et ils transforment leur jardin en une moquette de terre nue, et ils se plaignent après d'avoir un tas d'adventices qui se mettent à pousser, donc là ils veulent les désherber, enfin, alors que plus une terre de jardin est couverte, moins elle souffre, plus elle est vivante, c'est ce que vous êtes en train de dire là.
Oui, tout à fait. C'est-à-dire que quand on regarde dans la nature, les sols, en fait, là où poussent des choses, la terre n'est pas nue. Quoi. Il y a toujours une couverture végétale quand on regarde, ou de matière organique, disons, quand on regarde dans une forêt, la plupart du temps. Bah, d'ailleurs, on aime ça quand on marche dans une litière de feuilles. Ça sent bon, d'ailleurs, le terreau. Hein,
oui, l'humus.
Et ça fait partie de ce recyclage des matières.
D'ailleurs,
un sol qui est nu, c'est un sol qui va être soumis à l'érosion.
À la battance.
Le ruissellement, l'érosion, c'est l'érosion des pluies qui vont emporter les particules de terre. C'est aussi l'érosion par le vent, le vent qui va soulever la poussière, quoi, qui va voilà. Et on revient toujours à la vie du sol et les vers de terre et autres petites bêtes qui ont besoin aussi d'humidité dans la terre. Et donc cette couverture qu'on met en permanence dessus permet de préserver un peu ce milieu pour s'occuper du sol.
Oui, alors justement, dans votre livre, vous parlez d'un apport un peu nouveau, vous parlez même de révolution agronomique, pour vous citer, qui est le BRF, qui donc, lui, remet un peu le jardin à la forêt, je dirais presque. Hein. Est-ce que vous pouvez nous en dire deux mots? Parce que d'un côté, il y a le compost. Le compost, ce sont des végétaux qu'on a compostés, qui se sont décomposés, qui ont chauffé à un moment donné pour se décomposer. Ce sont des déchets végétaux, même de notre propre cuisine.
Tout ce qui vient du jardin, tout ce qui vient de la
voilà.
cuisine.
Et
que l'on met en tas, que l'on mélange, et des tombes de gazon, des feuilles mortes.
Oui, on essaye de préserver une proportion entre de la matière sèche et de la matière humide pour que que les tombes de gazon ne se transforment pas un genre de bouillie malodorante. Et ça, c'est le compost. Et le BRF, c'est quoi alors?
Alors, le BRF, c'est vrai qu'on en entend beaucoup parler depuis 3-4 ans en France. BRF, en fait, signifie bois raméal fragmenté. Alors, le bois, bon, c'est ce que c'est. Raméal, en fait, c'est-à-dire les rameaux, c'est les rameaux. Et fragmenté, en fait, ça veut dire que c'est broyé. Donc, c'est un chercheur québécois, Gilles Lemieux, qui a beaucoup travaillé sur, par observation de ce qui se passait en forêt et par un certain nombre d'expériences, d'expérimentations dans des champs, le type d'apport de ce matériau au niveau des sols. Il s'est aperçu en fait quand on couvre légèrement, c'est pas des grosses épaisseurs, on met 2-3 cm de ces fameux BRF sur le sol, qu'en fait, donc il y avait d'abord un développement de champignons blancs, le mycélium qui se développe, et ensuite on incorpore ça au sol et ça participe au redéveloppement de la vie biologique des sols. Et c'est beaucoup appuyé là-dessus, donc c'est un processus un petit peu différent du processus classique de compostage et qui semble, je dis bien qui semble parce que là il y a encore beaucoup d'essais qui sont en cours là-dessus, apporter dans certaines conditions vraiment un plus au niveau agronomique. Il y a des essais qui ont été faits dans des terres très séchantes, par exemple, qui ont montré que cet apport de BRF était pourvoyeur d'humus et permettait d'avoir une meilleure résistance à la sécheresse. Apportait aussi une bonne alimentation au niveau des plantes.
Ouais.
C'est un processus qui se développe qui est un petit peu différent que celui du compost.
Ouais. Alors pour étayer vos propos. J'ai un ami maraîcher qui fait un lopin de fraises Mara des Bois en particulier. Et il s'est amusé à mettre la moitié de sa parcelle avec des fraises sur paillis plastiques, ce qu'il faisait d'habitude.
Ouais.
Et l'autre moitié, il a tenté le BRF. Et il m'a dit, la différence est flagrante. Il y a une meilleure productivité, enfin, production de fraises, étalement, moins de parasites. Enfin, c'est assez, pour lui, c'était vraiment assez flagrant comme différence. Par rapport au BRF et au compost, je crois qu'il ne faut pas rentrer dans une guerre en voulant dire l'un ou l'autre. En fait, ça peut être au contraire l'un et l'autre.
Oui, de toute façon, c'est ce qui est conseillé aujourd'hui. De toute façon, les BRF, la base du jardinage biologique, c'est quand même de faire avec les ressources qu'on a autour de chez soi.
Mmh.
Donc, il y a des ressources les plus proches possibles. Donc, il y a des ressources du jardin qui sont propices au compostage. Donc tout ce dont on parlait tout à l'heure, hein,
les déchets végétaux,
les restes de gazon, ouais. Les restes de cuisine, les restes de culture. Donc ça, c'est propice au compostage. Et puis, si on a des haies,
oui.
Si on a des arbres fruitiers, donc on a
la taille.
Un entretien à faire, alors là, effectivement, on peut penser BRF avec ces matériaux-là. Donc c'est voilà, faut penser en fait d'abord qu'est-ce qu'on valorise, qu'est-ce qu'on a comme ressources disponibles sous la main. Et puis à partir de là, on
valorise.
On fait avec quoi.
Ah oui. Bah écoutez, moi je suis ravi de cet entretien parce que je pense que c'est vrai que la terre est quand même nourricière des plantes et que plus on la respecte, plus on la connaît, plus on l'entretient, plus on l'améliore, plus on a des plantes saines sans aucun apport de produits chimiques que certaines publicités nous vendent.
Oui, surtout ce qu'il faut dire, c'est qu'au-delà de quelques principes de base, après, c'est, chacun doit trouver sa méthode et sa technique appropriée à la terre de son propre jardin.
Mmh.
Et c'est un peu ce qu'on a essayé de faire illustrer à travers ce livre, donc il y a quelques témoignages de pratiques jardinières dans différentes situations. Donc ce sont des jardiniers qui ont bien accepté de témoigner. Et ça montre voilà, de la diversité de ces approches. Il faut surtout, en tout cas, éviter de s'enfermer dans des dogmes.
Oui, tout à fait.
Le message de fond de ce livre est là. Quoi.
Oui. Il faut savoir s'adapter à son terrain, s'adapter à son environnement et à sa terre. Et c'est vrai, éviter les dogmes et les obligations. Écoutez, voilà. En tout cas, je vous remercie pour tous ces renseignements. Et je souhaite une belle vie à votre livre.
C'était un entretien avec Rémi Bacher, co-auteur avec Blaise Leclerc de l'ouvrage « Une bonne terre pour un beau jardin » paru aux éditions Terre Vivante.